L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Raize automatique à partir de 3900 francs seulement.
Bonjour Jean-François Bodin.
Bonjour Nicolas.
On va parler ce matin du vieillissement de la population en Nouvelle-Calédonie et vous recevez la présidente de la Fédération des établissements d'accueil des personnes âgées.
Oui, Émilie Villela, bonjour.
Bonjour, merci de m'accueillir ce matin.
Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler effectivement de ce qu'on pourrait appeler le parcours des personnes âgées en Nouvelle-Calédonie et plus particulièrement dans les EHPAD, hein, qui sont les établissements qui les accueillent et qui sont spécialisés pour ça. D'abord, peut-être première question, combien existe-t-il d'EHPAD aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie? Est-ce qu'on a l'impression que par rapport au vieillissement de la population, la capacité d'accueil des personnes qui sont en perte d'autonomie est suffisante aujourd'hui?
Oui, alors nous avons 15 établissements sur le territoire, répartis sur la totalité du territoire, ce qui correspond à peu près à 700 lits et environ 400 salariés. Oui, aujourd'hui, le besoin est plutôt couvert, même si, effectivement, le vieillissement de la population est une réalité.
2030, on dit qu'il y aura 20% de la population qui aura plus de 60 ans. Est-ce que, par rapport à ces prévisions, il faudrait réfléchir encore un peu plus, peut-être, au parcours des personnes âgées ?
Oui, tout à fait. Il y a un défi à relever, un défi qui va prendre du temps, qui va nécessiter des moyens humains, des moyens financiers, ainsi que des compétences spécifiques. C'est une nécessité et une priorité de développer l'accompagnement des personnes âgées sur la totalité de son parcours, donc du domicile à l'institution.
Est-ce qu'aujourd'hui encore, on peut faire des choix pour les familles qui ont des personnes qui sont en perte d'autonomie, qui sont âgées, entre le maintien à domicile, le placement dans un établissement spécialisé ? Comment ça se passe ? Comment est menée la réflexion ?
Aujourd'hui, il ne faut pas opposer le domicile à l'institution. Il faut envisager la situation comme un parcours de vie, tout simplement. Donc lorsque le domicile arrive à ses limites, finalement, nous pouvons prendre le relais, nous, institutions.
Prendre le relais, c'est-à-dire accueillir les personnes?
Oui, tout à fait. Et finalement, on se rend compte qu'il y a des limites au domicile aujourd'hui, même si c'est bien évidemment une priorité d'accompagner les gens à domicile le plus longtemps possible. On a ces limites, notamment l'accueil 24 heures sur 24, la surveillance, la sécurité, les moyens financiers également qui peuvent être une limite, car l'accueil à domicile devient plus coûteux finalement que l'institution dès lors qu'on s'apparente aux mêmes prestations. Et puis, bien évidemment, l'épuisement de l'aidant familial de par sa vie personnelle, professionnelle, encore active.
Dans quel état d'esprit sont les familles lorsqu'elles se posent la question de placer quelqu'un de leur entourage dans un EHPAD? Est-ce que c'est une démarche qui est difficile pour elles? Comment vous les accompagnez? Il y a vraiment une réflexion à mener avec ces personnes?
C'est effectivement tout un accompagnement parce que je pense sincèrement que c'est l'une des décisions les plus difficiles à prendre pour un enfant de placer son parent. Et on l'ignore trop souvent, finalement, que c'est une décision difficile liée à des émotions assez contradictoires. Ce besoin de vivre, de continuer effectivement sa vie, et tout en accompagnant son parent à rentrer en institution, avec un sentiment parfois de culpabilité ou de perte de sentiment d'utilité. Et donc, il est essentiel de communiquer, de les accompagner en douceur, pour que le lien de confiance se fasse.
Alors Émilie Villela, si on vous reçoit ce matin, c'est aussi parce que de nombreux auditeurs nous ont appelés après à la suite de la parution d'un article chez certains de nos confrères qui dénonçaient un certain nombre de faits dans un des EHPAD de Nouméa. C'est un article qui a fait beaucoup réagir. Vous, comment vous l'avez reçu et qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que cet article est totalement contraire à ce dont nous avions besoin, que ce soit les établissements, les familles ou les résidents ou encore les équipes. Je pense que c'est un article qui instrumentalise la douleur des familles, qu'il ne reflète absolument pas le métier que nous faisons au quotidien et qu'il n'a donc aidé personne dans la situation.
Alors est-ce que la question qu'on vous pose forcément derrière, c'est est-ce qu'il y a des dysfonctionnements aujourd'hui dans les EHPAD? Est-ce qu'il y a un problème de personnel? Est-ce qu'il y a un problème de suivi des personnes qui sont placées en EHPAD?
Je vais vous répondre sur la partie effective, car effectivement, c'est très souvent l'argument, le manque de personnel. Il faut que vous sachiez que les effectifs en EHPAD sont réglementés et contrôlés. C'est une chose importante. On nous affecte des postes selon le nombre de lits et selon les catégories professionnelles. Ces effectifs, aujourd'hui, en Calédonie, sont respectés dans les EHPAD. Et si on prend l'exemple de l'EHPAD Magnin, il va même au-delà...
Celui qui est incriminé dans l'article.
Tout à fait. Cet EHPAD va même au-delà des effectifs réglementés. Le combat de la FEAPA, c'est rehausser ces quotas. Bien sûr que l'on aimerait avoir plus de personnel et que les EHPAD sont le parent pauvre du secteur médico-social, bien évidemment. Donc on veut rehausser ces quotas de personnel. Mais aujourd'hui, on a des effectifs réglementés, contrôlés, selon les attendus des autorités.
Y compris, évidemment, dans les procédures de recrutement et la validation des acquis des personnes qui viennent travailler dans les EHPAD ?
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on est face à une véritable professionnalisation de notre secteur et de notre métier. Les gens sont qualifiés, diplômés et, dans l'idéal, expérimentés.
Mmh. Ce qui est forcément un atout dans un établissement qui accueille des personnes âgées. Aujourd'hui, quand vous êtes confronté à une difficulté comme celle qui a été soulignée dans l'article, comment ça se passe dans la maison de retraite ? Est-ce que les gens réagissent ? Est-ce qu'ils sont surpris de ce qui s'est passé ?
Oui, en ce qui concerne les padmaniens, il y a eu de nombreuses réactions et des réactions extrêmement positives. De nombreuses familles ont manifesté leur soutien à l'établissement. Puisqu'effectivement, ils n'ont pas compris cette attaque-là à charge. Je pense qu'ils comprennent tout à fait la souffrance de la famille qui a donc relaté les faits. Pour autant, c'est bien trop facile et bien trop incriminant pour finalement y donner une suite aussi violente.
Mmh. Comment se passe le rapport entre le personnel et les personnes qui sont dans les EHPAD et qui sont en perte d'autonomie ? Est-ce que quel est le but finalement ? C'est de leur laisser leur autonomie le plus longtemps possible ? C'est de les accompagner le mieux possible ? Vous en discutez aussi avec les familles, bien sûr ?
Notre objectif, c'est rassembler. Notre objectif, c'est travailler ensemble avec les familles pour qu'il y ait un lien de confiance qui soit établi. C'est le seul moyen d'avoir une prise en charge de qualité de nos résidents. Et la difficulté, c'est que nous allons avoir très régulièrement des différences de perception de certaines situations. Vous me parlez de l'autonomie, je vais vous donner un exemple. Lorsqu'on a une personne qui refuse de s'alimenter, l'une des pratiques que l'on peut avoir sur l'établissement va être de laisser la personne manger seule, manger avec ses doigts. Si je ne communique pas avec la famille, si je n'explique pas pourquoi, pour ma part, c'est du respect de sa dignité, j'ai une famille qui arrive sur l'établissement, qui trouve sa maman en train de manger avec ses doigts, et clairement, elle va être choquée, outrée, puisque pour elle, il y aura atteinte à la dignité de sa maman, qui, à l'époque, préparait ses repas, nous faisait une jolie table. Donc, si j'explique pas à la famille que moi, je suis précisément dans le maintien de son autonomie, dans le respect de ses besoins vitaux, celui de se nourrir notamment, il peut y avoir véritable confrontation, perte de confiance, et on en arrive à une situation telle que celle-ci.
Ça veut dire que la communication avec les familles est un aspect très important pour un EHPAD. Il faut vraiment que les familles soient présentes et informées de ce qui se passe et des décisions qui y sont prises.
Oui, tout à fait. La communication est au cœur des relations et elle est surtout dans l'intérêt de la prise en charge du résident.
Est-ce qu'aujourd'hui, y a peut-être des difficultés, parce qu'on ne travaille pas sur une science tout à fait exacte, en fait. On travaille sur des rapports humains. Est-ce que ça complexifie la situation, surtout qu'en plus, les personnes avec lesquelles on travaille n'ont pas forcément toutes les ressources psychologiques ou intellectuelles nécessaires pour comprendre la situation ?
Bien évidemment, nous sommes entourés d'êtres humains. À partir de ce moment-là, les variables sont infinies. Et c'est toute la beauté et la complexité de notre situation.
Est-ce qu'un article comme celui qui a été publié, au-delà de ce qu'il véhicule, vous oblige ou en tout cas vous permet de pas vous remettre en question, mais de vérifier peut-être un certain nombre de procédures ou de vérifier les pratiques dans les différents EHPAD ?
C'est exactement ça, c'est le système. C'est-à-dire dès lors qu'une famille émet un signalement auprès des autorités ou ne serait-ce qu'auprès de la direction, il y a étude de la situation. Chaque directeur aujourd'hui se saisit de la totalité des signalements, tout comme nos autorités. Et ensuite, il y a étude, il y a enquête. Aujourd'hui, on est un secteur suffisamment professionnalisé pour avoir des outils de traçabilité, de suivi, qui nous permettent justement d'évaluer la situation et d'en conclure s'il faut changer les process internes, les faire évoluer, les améliorer. Mais ce qui est surtout important, c'est qu'une famille en souffrance face à une situation qu'elle ne saisit pas, qu'elle ne comprend pas, ou même face à une situation, une erreur commise par l'établissement, qu'il y ait de la communication. Parce qu'il y aura toujours remise en question de notre part, toujours.
Mmh. D'une manière plus générale, Émilie Villela, est-ce que aujourd'hui le parcours des seniors est suffisamment pris en compte? Parce qu'on a l'impression qu'une fois que les personnes sont sorties de la vie active et sorties des radars, j'allais dire, d'un certain nombre d'institutions, elles n'existent plus et c'est très compliqué pour elles et pour leur famille. Est-ce que cette prise en charge du parcours des seniors est suffisamment importante pour vous?
Alors, elle est prise en compte par nos autorités, bien évidemment. Je ne peux pas dire le contraire, mais c'est le combat de la FEAPA d'exister, effectivement, et de faire exister nos vieux, de faire prendre conscience à la population qu'il est nécessaire de mettre en œuvre les moyens humains, financiers, également sur le plan compétences professionnelles, très, très rapidement pour eux, oui.
Vous nous confirmez, ce sera ma dernière question, qu'au niveau des EHPAD, il y a des contrôles qui sont effectués, les autorités suivent. Enfin voilà, un EHPAD ne fait pas ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut.
Je vous l'assure, on est une profession extrêmement réglementée, surveillée. Et aujourd'hui, on travaille énormément avec les autorités et avec le gouvernement. Donc oui, on ne fait pas ce qu'on veut.
Émilie Villela, présidente de la Fédération des établissements d'accueil des personnes âgées. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin.
Je vous remercie. Belle journée.